L'agrégé Andrei Vassilievitch Kovrine s'était surmené, fatigué. Il ne suivait aucun traitement, mais un jour, buvant de la bière avec un ami médecin, il lui parla de sa santé, et le docteur lui conseilla d'aller passer le printemps et l'été à la campagne. Fort à propos, l'agrégé reçut une longue lettre de Tania Pesotsky lui demandant de venir pour quelque temps à Brisovka où elle habitait, et il décida d'accepter. Kovrine, on était en avril, se rendit tout d'abord dans sa propriété natale de Kovrinka, où il resta 3 semaines tout seul. Puis, quand les chemins furent praticables, il partit en voiture pour le logis de l'horticulteur réputé Pesotsky, son ancien tuteur. Il n'y avait que 70 verstes de Kovrinka-Brisovka. Roulé au printemps sur une route à peine séchée dans une confortable calèche, fut pour lui une véritable joie. La maison des Pesotsky était une immense demeure à colonnes, avec des têtes de lion, des crépis qui se détachaient, et à la porte un laquais en habit. Un vieux parc à l'anglaise, sévère et rébarbatif, s'étendait de la maison à la rivière sur presque l'étendue d'une verste. Des pins aux racines dénudées ressemblant à des pattes velues croissaient sur la rive argileuse et abrupte qui le terminait. En bas, l'eau scintillait, revêche. Des courlis volaient avec un cri plaintif et l'on avait toujours l'impression qu'il fallait s'asseoir là et y écrire une ballade. Près de la maison, au contraire, et dans le verger, qui, avec les serres, couvrait une 30aine d'hectares, l'impression était joyeuse et allègre, même lorsqu'il faisait mauvais temps. Nulle part, il n'avait été donné à Kovrine de voir d'aussi étonnantes roses, d'aussi beaux lys, des camélias et des tulipes multicolores, allant du blanc vif au noir de suie, et au total une aussi grande richesse florale que chez Pesotsky. À cette pointe du printemps, le luxe des massifs était encore enfoui dans les serres, mais il suffisait de ce qui fleurissait au bord des allées et çà et là dans les massifs pour que l'on se crût, en se promenant au jardin, dans le royaume des tendres couleurs, surtout aux heures matinales, où sur chaque pétale brille la rosée. Ce qui constituait la partie décorative du jardin, et ce que Pesotsky appelait avec dédain les bêtises, produisait jadis sur Kovrine enfant une impression de conte de fées. Que de bizarreries n'y avait-il pas là? Que de monstruosités et de dérisions de la nature? Il y avait des arbres fruitiers en espalier, un poirier pyramidal comme un peuplier, des chênes et des tilleuls ronds comme des boules, un pommier parasol, des arcades végétales, des monogrammes, des candélabres, et même le chiffre 1862, dessiné par des pruniers marquant l'année où Pesotsky avait commencé à s'occuper d'horticulture. Il s'y trouvait aussi de beaux petits arbres élancés au tronc droit et solide, comme celui des palmiers, et ce n'était qu'en les considérant avec attention que l'on pouvait y reconnaître des groseilliers, ou des groseilliers épineux. Mais ce qui souriait le plus dans le jardin et lui donnait un air vivant, c'était une animation continuelle. Près des arbres et des arbustes, dans les allées et dans les massifs, des gens de l'aube au soir grouillaient comme des fourmis, maniant des brouettes, des pioches et des arrosoirs. Kovrine arriva chez les Pesotsky un soir vers 10 heures. Il trouva en grande alarme Tania et son père. Le ciel pur, étoilé, présageait ainsi que le thermomètre une gelée matinale et le jardinier Ivan Karlitch, s'étant rendu en ville, on ne pouvait s'en remettre à personne. Au souper, on ne fit que parler de gelée blanche. Et on décida que Tania veillerait et ferait à 1 heure du matin le tour du jardin pour voir si tout y était en ordre. Son père, pour la remplacer, se lèverait à 3 heures, ou même avant. Kovrine resta toute la soirée avec Tania et l'accompagna après minuit au jardin. Il faisait froid. Dehors, on sentait déjà fortement la fumée. Dans le grand verger, appelé commercial, et qui rapportait par an à Yegor Semyonitch, le père de Tania, plusieurs milliers de roubles de revenus nets, une âcre, noire, épaisse fumée rampait contre terre, enveloppant les arbres et gardant de la gelée ces milliers de roubles. Les arbres étaient disposés en quinconce. Leurs files, droites et régulières, formaient comme des rangs de soldats, et cet ordre, sévère et rigoureux, joint au fait que les arbres étaient de même hauteur et avaient des têtes et des troncs semblables, rendait le tableau monotone, et même triste. Kovrine et Tania suivaient les lignes où se consumaient des feux de fumier et de détritus de toutes sortes, et de temps à autre, ils rencontraient des ouvriers errant dans la fumée comme des ombres. Seuls étaient en fleurs les cerisiers, les pruniers et quelques espèces de pommiers, mais tout le jardin baignait dans la fumée, et ce ne fut que près des pépinières que Kovrine respira librement. « Tout enfant, » dit-il avec un frisson des épaules, « cette fumée m'a fait éternuer, mais je ne comprends pas encore comment la fumée peut préserver de la gelée. » « La fumée, » répondit Tania, « tient lieu de nuages quand il n'y en a pas. » « Et quel besoin y a-t-il de nuages? Par ciel couvert, il n'y a pas de gelée blanche? Ah oui !» Il se mit à rire et la prit par la main. Le large visage de Tania, transi de froid, à l'expression très sérieuse, ses sourcils, fins et noirs, le col de son manteau relevé l'empêchant de remuer librement la tête, toute sa personne fluette, sa robe qu'elle relevait à cause de la rosée, l'émouvait. « Seigneur, pensa-t-il, que la voilà déjà grande. Quand je suis parti d'ici, il y a 5 ans, lui dit-il, vous étiez encore tout enfant. Vous étiez toute maigre, les jambes longues, les cheveux sur le dos. Vous aviez des robes courtes et je vous appelais le héron. Ce que le temps opère. » « Oui, soupira Tania, 5 ans, depuis que d'eau a coulé. Avouez-le, Andriyusha, fit-elle vivement en le regardant en face. Vous vous êtes déshabitué de nous. Et que vais-je vous demander? Vous êtes un homme, vous vivez déjà une vie intéressante, vous êtes quelqu'un. Oublié est si naturel. Pourtant, Andriyusha, je voudrais que vous nous considériez comme vos proches. Nous en avons le droit. Je le fais, Tania. Vraiment? Ma parole d'honneur. Vous vous étonniez ce soir que nous eussions tant de vos photographies, mais vous savez que mon père vous adore. Il me semble parfois qu'il vous aime plus que moi. Il est fier de vous. Vous êtes un savant, un homme extraordinaire. Vous avez fait une carrière brillante et il est persuadé que vous êtes devenu tel parce qu'il vous a élevé. Je ne l'en dissuade pas, qu'il le croit. Déjà l'aube pointait. On le remarquait surtout à la netteté avec laquelle se profilait dans l'air la volute de fumée et les cimes des arbres. Les rossignols chantaient et des chants, il arrivait des cris de caille. « Tout de même, » dit Tania, « il est temps d'aller se coucher. Il fait froid. » Elle le prit par le bras. « Merci, Andriyusha, d'être venu, » lui dit-elle. « Nous ne connaissons que des gens sans intérêt et en très petit nombre. Il n'est question ici que du jardin, puis du jardin, rien d'autre. « Tige et demi-tige, » fit-elle en riant, « apporte rainette, happy, greffe en écusson, greffe en flûte. Toute notre vie est dans le jardin. » Je ne vois en rêve que des pommes et des poires. C'est bien, évidemment, c'est utile. Mais comme distraction, on souhaite parfois autre chose. Il me souvient que quand vous veniez aux vacances, la maison paraissait plus fraîche et plus claire, comme si l'on eût enlevé les housses du lustre et des meubles. Bien que fillette, je le sentais. Elle parla longtemps ainsi, avec beaucoup de sentiments. Il apparut soudain à Kovrine qu'il pourrait durant l'été s'attacher à ce petit être faible et bavard, s'en éprendre et en être amoureux. Dans leur double situation, cela se pouvait si bien, était si naturel. Cette pensée l'attendrit et le fit rire. Il se pencha vers la chère figure soucieuse et se mit à fredonner. « Onegin, je ne puis le taire, j'aime follement Tatiana. » Lorsqu'on revint à la maison, Yegor Semyonitch était déjà levé. Kovrine, n'ayant pas sommeil, bavarda avec son vieil hôte et retourna au jardin avec lui. Yegor Semyonitch était de haute taille, large d'épaule, le ventre gros, et avait de l'asthme. Pourtant, il marchait toujours si vite que l'on avait peine à le suivre. Il avait un air extrêmement préoccupé, se dépêchait toujours et donnait l'impression que tout serait perdu s'il s'attardait une minute. « Voilà fait, mon petit » commença-t-il en s'arrêtant pour souffler. « Rater, tu le vois, c'est la gelée. Et si l'on élève de 2 toises un thermomètre sur un bâton, plus de gelée. Pourquoi cela ?»« Ma foi, » dit Kovrine en riant, « je ne le sais pas. » On ne peut pas tout savoir, évidemment. Aussi vaste que soit l'esprit, on ne peut pas tout y loger. Tu t'occupes surtout de philosophie, je crois. Oui, je fais des cours de psychologie et m'intéresse à la philosophie en général. Et ça ne t'ennuie pas. Au contraire, c'est même ma raison de vivre. Allons, Dieu soit loué, dit Yegor Semyonitch, passant la main sur ses favoris gris et réfléchissant. J'en suis très heureux pour toi. Très content, mon ami. Mais soudain, prêtant l'oreille et faisant une mine terrible, il s'élança sur le côté et disparut derrière les arbres, dans les nuages de fumée. « Qui a attaché ce cheval à un pommier ? » l'entendit-on crier d'une voix désespérée, déchirant l'âme. « Quel est le misérable, la canaille, qui a attaché un cheval à un pommier ? » « mon Dieu ! On gâche, on gâte, on laisse geler, on profane. Le jardin est perdu, fichu ! Mon Dieu !» Lorsqu'il revint vers Kovrine, son visage exprimait la fatigue et l'irritation. « Que faire avec ces réprouvés » dit-il d'une voix dolente en écartant les bras. « Stiopka, en conduisant du fumier cette nuit, a attaché son cheval à un pommier. Il a tortillé le gredin, ses rênes de toutes ses forces, en sorte que l'écorce est meurtrie en 3 endroits. Ça vous plaît ? Je le lui dis. Et il reste comme une bûche, les yeux ronds. Ce ne serait pas assez que de le pendre. » Calmé, il prit Kovrine dans ses bras et le baisa à la joue. « Allons, Dieu soit loué, Dieu soit loué, » marmotta-t-il. « Je suis très heureux que tu sois venu. Je ne peux dire combien je le suis. Merci. » De sa démarche rapide et l'air préoccupé, Pessotsky fit ensuite le tour du jardin et montra à son ancien pupille toutes les serres, tempérées et chaudes, et les deux ruchers qu'il appelait la merveille de notre siècle. Tandis qu'il marchait, le soleil se leva, éclairant vivement le jardin. Il fit bon. On pressentit une journée lumineuse, gaie et longue. Kovrine pensa que ce n'était que le commencement de mai et que l'on avait l'été devant soi, aussi lumineux, aussi gai et aussi long. Et dans sa poitrine tressaillit tout à coup le sentiment joyeux et jeune qu'il éprouvait en son enfance quand il courait dans ce jardin. Il prit à son tour le vieillard dans ses bras et l'embrassa tendrement. Émus l'un et l'autre, ils rentrèrent et se mirent à prendre du thé dans de vieilles tasses de porcelaine, accompagnées de crème et d'appétissants petits pains. Et ces détails rappelèrent à Kovrine son temps de jeunesse. Le présent délicieux et les impressions du passé qui renaissaient se fondaient en lui. Il en ressentait de l'aise et de la tristesse. Il attendit que Tania s'éveillât, but du café avec elle et alla faire une promenade. Puis, rentrant dans sa chambre, il se mit au travail. Il lut attentivement un livre, prit des notes, levant les yeux de temps à autre pour regarder soit les fenêtres ouvertes, soit les fleurs encore humides de rosée qui se trouvaient dans des vases sur sa table. En rabaissant les yeux sur son livre, il lui semblait qu'en lui chaque fibre tremblait et tressautait de joie.